France Inter, franceinter.com.
On va fouiller dans le passé, dans un passé très lointain, mais à partir d'une découverte faite le 14 septembre 1822, Champollion découvrait le secret des hiéroglyphes. Les langues sacrées ont laissé lire leur vocabulaire perdu. Champollion a déchiffré ces hiéroglyphes qui semblaient être un sceau mis sur les lèvres du désert. Chateaubriand. Deux mille ans d'histoire. En juillet 1799, quelque part au nord-ouest du Caire, un officier de l'expédition française en Égypte découvrait une stèle de basalte sur laquelle était inscrit un décret de Ptolémée en 196 avant Jésus-Christ. Sur cette pierre devenue célèbre, la pierre de Rosette, on pouvait lire pour la première fois le même texte écrit en trois langues différentes, l'un en hiéroglyphe, l'autre en démotique et le troisième en grec, à partir duquel on pouvait espérer résoudre un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Le mystère des hiéroglyphes qu'on pouvait voir dans toute l'Égypte sur des temples et des tombeaux dont on ne savait ni quand, ni par qui, ni pourquoi ils avaient été construits. Faute d'en connaître la langue, on ne savait rien de l'antiquité égyptienne jusqu'à celui qui, 20 ans après la découverte de la pierre de Rosette, commençait à en déchiffrer les hiéroglyphes, Jean-François Champollion.
Regarde.
Quoi, cette forme d'enclume ?
C'est un cartouche. Eh bien, certains pensent que ce cartouche renferme un nom. Peut-être celui d'un roi.
Personne n'a pu le démontrer.
Non, mais si les savants ont raison, celui-ci signifie Ptolémée.
Peut-être, mais comment le savoir ? Les hiéroglyphes sont-ils des lettres ? Existe-t-il un alphabet ? Est-ce uniquement le nom de Ptolémée ou sa description ? Ou bien est-ce la liste de tous ses titres ? Nous l'ignorons. Mais les hiéroglyphes sont des symboles et non des mots. Les experts de Napoléon pensaient la déchiffrer en quelques semaines. Ils ont échoué. Le professeur de Sacy l'étudie depuis plusieurs années. Et il n'est pas le seul. Ce ne sera pas facile.
La réponse est là, quelque part. Et je la trouverai.
Richard Lebeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue et auteur d'un atlas de la découverte de l'Égypte qui vient d'être publié chez Autrement. L'Égypte dont on ignorait presque tout, on l'oublie maintenant, mais on oubliait presque tout, on ignorait presque tout de l'Égypte avant Champollion, et cela depuis 13 siècles. On ne savait presque rien de son histoire parce que tout simplement on ignorait la langue que parlaient les Égyptiens du temps des pharaons.
Oui, l'écriture hiéroglyphique tombe dans l'oubli, s'éteint en 396, lorsque les derniers hiéroglyphes sont gravés sur un mur du temple dédié à Isis à Philée. Et depuis, on en revient à une image ésotérique de l'Égypte, terre des mystères. Donc on a du mal à imaginer que des signes, j'allais dire des petites images, puissent noter des sons, ça serve à écrire. Et on va vivre comme ça jusqu'au XVIIe siècle, où on commence un tout petit peu à déchirer ce voile de l'oubli avec un jésuite qui s'appelle Kircher, qui lui a une intuition géniale, qui est de dire que c'est pas parce que les hiéroglyphes ont disparu que la langue égyptienne est disparue. Et il dira, le copte, c'est l'égyptien ancien. Une idée qui sera reprise par Champollion. Et puis en même temps aussi, la force, c'est qu'avec toute la Renaissance, on va un peu repêcher et partir à la recherche des antiquités. Et on va là aussi retomber un petit peu sur cette Égypte grecque, mais pas l'Égypte indigène. Ça, il faudra attendre Champollion.
Alors on peut peut-être aussi avoir l'intuition que le copte, ça descend de l'écriture des hiéroglyphes. Cela dit, on n'a aucun élément qui permette de traduire les hiéroglyphes, tout simplement parce que cette langue est isolée. Il n'y a pas de langue à laquelle on peut comparer les hiéroglyphes jusqu'à une autre découverte importante. 1799, Bonaparte est en Égypte et puis les scientifiques qui sont autour de lui découvre cette pierre, la pierre de Rosette, sur laquelle il y a le même texte, un décret, écrit en trois langues.
Non, pas en trois langues.
Enfin non, en trois types
deux
de
langues et trois écritures.
Oui.
Et ça, c'est là, effectivement, donc on a, comme je l'avais dit, on a deux écritures, du démotique, du hiéroglyphe. Ça, c'est pas, deux écritures qui servent à noter la langue égyptienne.
Le démotique, en deux mots, de quoi s'agit-il?
C'est une langue. L'Égypte a toujours eu un système d'écriture qui compte deux écritures. Une qu'on grave sur les murs et une cursive. Donc, dès le départ, on va avoir des hiéroglyphes et ensuite des écritures cursives. La première, la plus ancienne, s'appellera hiératique. Et puis, on assistera au VIe siècle à la naissance d'une nouvelle écriture cursive qui dérive donc des précédentes, qui est le démotique.
Un peu l'égyptien vulgaire, entre guillemets, enfin le populaire,
oui, la langue,
disons.
Du peuple.
Oui, la langue du peuple. Et puis alors, il y a le grec. Alors là, le grec, c'est une langue, c'est une écriture. Et on se dit, comme le grec est connu, puisque le grec, c'était la langue des derniers pharaons, depuis Alexandre le Grand, eh bien, on va, à partir du grec, traduire le démotique et puis peut-être découvrir ce que sont les hiéroglyphes.
Oui, d'abord, on oublie qu'effectivement, c'est qu'après Alexandre le Grand, c'est que le Proche-Orient, si on met l'Égypte dedans, parle grec. Donc c'est quand même la langue du pouvoir, et la pierre de Rosette, c'est un décret qui donne un certain nombre de droits au clergé, donc d'Isis. Donc on est forcé de le publier à la fois en grec, la langue du pouvoir, et pour qu'il soit quand même compréhensible pour certains Égyptiens, on va l'écrire en hiéroglyphe et en démotique. Et c'est vrai que dès le départ, les gens se disent « on a un bilingue ». Et les recherches vont partir « on va laisser tomber le démotique ». On va tout de suite essayer de travailler à comparer le grec et l'écriture hiéroglyphique.
Alors, on n'y arrive pas. On va voir dans quelques instants pour quelles raisons, puisque la découverte de Champollion, elle s'est faite 22 ans après la découverte de la pierre de Rosette. Mais justement, intervient là-dessus Champollion. Deux mots quand même sur lui, parce que c'est un phénomène. Il est fasciné très jeune, vous le rappelez, par l'Égypte, qui est très à la mode à cause de l'exhibition d'Égypte. Il a 10 ans à peine, quand on a découvert la pierre de Rosette. Il est né dans le Lot en 1790 d'un père qui était libraire à Figeac, élevé par son frère aîné, Jacques-Joseph, qui va l'amener avec lui à Grenoble. Mais alors, il a une connaissance phénoménale des langues, Richard Lebeau.
Oui, surtout, il naît peut-être à Figeac, mais surtout, sa véritable jeunesse, c'est Grenoble. Grenoble, où il rencontre un de ses oncles, qui s'appelle Champolléon. Les formes sont pas très, à l'époque, sont pas encore bien fixées, qui est un ancien membre de l'expédition d'Égypte, un ancien soldat, donc qui va décrire l'Égypte, cette expédition au jeune Champolléon. À cette époque, Grenoble, on a un préfet qui s'appelle Fourier, qui est lui aussi un membre de l'expédition. Et puis, on a aussi donc, le grand frère, Jacques-Joseph, qui est aussi un fanat d'Égypte, si vous pouvez me passer l'expression. Donc, ce petit Champollion, à 10 ans, vit un peu dans ce berceau. Et c'est vrai que ça paraît un peu incroyable qu'un gamin de 10 ans dise « c'est moi qui trouverai ».
Ouais.
Et il a déjà ça. Et puis, il a surtout aussi donc le génie, mais la ténacité. Parce qu'à 16 ans, il va quand même se lancer. Mais c'est vrai qu'il est nul en maths, mais il a fait du latin, du grec, c'est le parcours classique. Ce qui est moins classique, c'est qu'il a fait de l'hébreu, de l'arabe, de l'araméen. Et puis, il va même pousser le chinois. Parce que comme à l'époque, on est donc en 1818, quelque chose comme ça, on ne sait pas trop encore si les hiéroglyphes, c'est qu'un idéogramme, donc ça pourrait ressembler au chinois. Donc, Champollion décide d'apprendre le chinois. Il a quand même 18 ans. Il a déjà 8 langues dans sa besace.
Et il va en rajouter une, qui est une autre langue, qui est le copte, qu'il va apprendre, donc qui est un dérivé du démotique, et puis qu'il apprend alors qu'il est professeur d'histoire ancienne à Grenoble.
Belson, la boy, la mi, met mi.
Dis-moi, c'est quoi ces sons?
Ce sont les quatre mots coptes pour lion.
Copte?
Oui, la langue vivante la plus proche du démotique, la langue que parlaient les Égyptiens à l'époque de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand. Si les hiéroglyphes ont un lien avec le démotique, c'est qu'ils sont l'écriture d'une langue, pas de vagues symboles mystiques. Regarde ce signe. Ici, il est en copte. Ici, en démotique. Ici, en égyptien ancien. Et ici, en hiéroglyphe, la version la plus ancienne. André ?
Professeur Champollion, allons-nous étudier les hiéroglyphes ?
Oui, bien évidemment que nous les étudierons.
Thank you. Et Champollion va même en découvrir le sens. Mais alors, il n'était pas seul, hein, il faut le rappeler, à essayer de déchiffrer les hiéroglyphes.
Non, enfin, on pourrait parler d'un quatuor. Hein. Il y en a un déjà dont on parle assez rarement, c'est Åkerblad, qui lui, qui est danois, oui. Donc, en 1802, il a déjà l'intuition que le démotique dérive du hiéroglyphe. Ça, c'est déjà là aussi, c'est une idée qui sera reprise, qu'on vient d'entendre par Champollion. Vous aurez aussi un orientaliste de haute volée, Sylvestre de Sacy. Et puis, dans ce quatuor, on a quand même deux éléments de tête. Il y a Young, hein, le physicien.
Thomas Young, anglais,
qui est un peu un touche-à-tout génial. Et puis, en avance, tout de même, Champollion. La différence de tous ces quatre, c'est qu'il y en a un qui fait du copte, qui nage dans le copte. Et ça, je crois que c'est ça sera sa clé pour triompher dans cette course.
Pourquoi ? Parce que le copte dérive du démotique qui dérive lui-même des hiéroglyphes.
Exactement. Et en même temps, surtout, c'est une langue qui est encore parlée.
Alors, si on patine comme ça pendant des années, pendant longtemps, c'est qu'aussi il y a un autre problème, Richard Lebeau, vous le rappelez, c'est qu'au fond, on ne sait même pas si les hiéroglyphes, ce sont les signes d'une langue. Est-ce que ce sont des idéogrammes ou des phonogrammes ? Rappelez-nous justement ce problème qui se pose à ce moment-là.
Oui, effectivement, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, lorsque les hiéroglyphes s'éteignent, tout le monde se dit, est-ce que c'est des idéogrammes, c'est-à-dire des sons qui notent des idées, hein, des dessins de petits pieds pour courir ou pour marcher, ou est-ce que ça se lit ? Disons, est-ce que c'est des phonogrammes ? Et on est toujours basculé sans jamais être capable de trancher. Même la pierre de Rosette ne peut pas trancher parce qu'on sort des signes qui servent à écrire donc un nom grec. Donc on va avoir un signe, un P, un T, un L, un M, etc. Mais en même temps, on s'aperçoit que dans la pierre de Rosette, il y a trop de signes, il y en a plus de signes que notre alphabet. Donc les gens ne savent pas et la clé elle sera trouvée plus tard par Champollion.
Mais par un autre élément, grâce à un autre élément justement, puisque c'est à partir du dessin d'un cartouche qu'on a découvert à Abou Simbel, tout à fait au sud de l'Égypte, justement, que Champollion réussit à montrer que ces hiéroglyphes, c'est les deux à la fois, des symboles, mais aussi une écriture phonétique. Il le fait le 14 septembre 1822, en déchiffrant donc sur un cartouche du temple d'Abou Simbel, dans lequel était inscrit le nom du célèbre pharaon qui l'avait construit 3000 ans avant que Champollion prononce son nom pour la première fois.
On sait qu'il s'agit d'un nom royal.
Exact. Et d'un ancien temple qui n'est ni grec ni romain.
Qu'est-ce que cela t'évoque ?
Ça me fait penser au soleil.
Et si c'était plus qu'un simple symbole ? Et si ce hiéroglyphe pouvait se prononcer ? Le copte nous aiderait peut-être.
En copte, soleil se dit Ré.
Ce qui rappelle le nom du dieu égyptien Ra. Et je connais celui-ci. Ce double hiéroglyphe représente le sens de Ptoloméus.
Et celui-ci ?
Je ne sais pas. Et si c'était la lettre M ? Ramsès. Je tiens mon affaire ! Il est temps d'informer le monde.
Je tiens mon affaire, c'est exactement ce qu'aurait dit Champollion le jour où il a découvert, au fond, le secret des hiéroglyphes, Richard Lebeau.
Oui, là on...
Il est tombé dans les pommes, paraît-il, à ce moment-là.
Oui, on ne sait jamais si c'est un peu trop... En règle générale, bon, il n'a pas tout à fait... Il est incapable encore d'écrire une grammaire, hein. Mais il a compris la clé. La question qui tarabuste les chercheurs depuis donc 13 siècles, hein, quelque chose comme ça, savoir si c'est des idéogrammes, des phonogrammes, il la résout là. Il a compris qu'il y a des signes qui servent à noter qu'un son, donc un alphabet, qu'il y a des idéogrammes, le signe du soleil, mais qui se prononce, donc, et puis des signes de phonogrammes. Et surtout, la grande avancée, c'est qu'il a le copte. Il est capable de savoir que Ramsès, ça veut dire naître de Ré.
Il est le premier à prononcer son nom, à prononcer le mot de Ramsès depuis les pharaons.
Depuis l'époque grecque, oui. C'est quelque
chose. Mais comment peut-on être sûr que c'est comme ça qu'il parlait ?
Alors là, Effectivement, là c'est aussi un autre problème très contemporain aujourd'hui, c'est comment on prononce l'égyptien ancien. Alors on se sert un peu du copte, mais on a quand même encore beaucoup de questions et en plaisantant, je peux dire qu'il y a beaucoup d'égyptologues qui croient en la résurrection. Parce que si tout le monde ressuscite, ils pourront entendre des Égyptiens parler.
En tout cas, c'est la première fois que l'on découvre, que l'on traduit, que l'on déchiffre un hiéroglyphe qui est bien antérieur à celui de Ptolémée, qui était un pharaon d'origine grecque, puisque Ramsès vivait 1000 ans avant la dynastie des Ptolémées. Il découvre aussi que c'est à la fois un idéologue, qu'un hiéroglyphe c'est à la fois un idéogramme et un phonogramme, donc ce qui est un symbole et en même temps qu'il représente un son, et il attend 13 jours pour l'annoncer le 27 septembre 1822 à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Ceci signifie donc, messieurs, que les hiéroglyphes sont la transcription d'une langue parlée, et en approfondissant ces recherches, nous réussirons peut-être à lire tous les hiéroglyphes depuis le début de la civilisation d'Égypte ancienne. La connaissance de cette période encore obscure répondra peut-être à des questions qui vous tourmentent depuis fort longtemps. Comme, par exemple, l'origine exacte de notre monde.
Monsieur Champollion.
Thomas Young.
Enfin, on se rencontre.
Félicitations. Il reste à vérifier votre théorie.
J'ai la ferme intention de le faire. Mon rêve serait de me rendre en Égypte pour y lire les hiéroglyphes directement sur les monuments et les tombeaux. Ceci n'est qu'un début.
Bonne chance, monsieur Champollion.
Alors, ce qui est extraordinaire, on l'oublie toujours, Richard Lebeau, c'est que tous les travaux faits par Champollion pour découvrir, pour percer le secret des hiéroglyphes, il les fait à partir de la France, sur des copies de la pierre de Rosette, sur des copies de cartouches qu'on lui fait venir d'Égypte. Il n'a jamais mis les pieds en Égypte.
Non, il a travaillé effectivement sur des copies. Alors, avec un avantage sur Young, justement, c'est que Young, lui aussi, a travaillé sur une copie de la pierre de Rosette, mais pour des questions techniques, les copies françaises étaient meilleures. Mais il n'avait jamais mis les pieds en Égypte, et ça sera son idée d'aller en Égypte, et malheureusement, le passé bonapartiste...
Oui, parce qu'il faut rappeler, alors, il y a les scientifiques comme Jung qui s'inclinent devant la réussite de Champollion. Jung a cette formule qui est très jolie, le 13 décembre 1823, Jung, le grand rival de Champollion, écrit « Champollion en fait tant que désormais rien d'important ne peut plus lui échapper, je considère donc mes études égyptiennes comme terminées ». C'est un bel hommage au fond qui lui rend, mais comme vous le dites, il y a des jalousies et on rappelle à ce moment-là opportunément un passé très embarrassant pour Champollion.
Qu'il a soutenu donc le retour de l'empereur lors des 100 jours, et puis en même temps aussi, il y a un réflexe, je ne sais pas si c'est bien français, mais je pense notamment à Jomard, qui est un... j'allais dire, fait partie des mandarins de l'université française à l'époque, qui supportent mal qu'un petit jeune comme Champollion, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'âge de Champollion.
Il a 32 ans.
C'est quand même quelque chose de phénoménal. Donc quelqu'un qui, en 10 ans de sa vie, donc, abat un travail qui a pris presque des millénaires, au moins des siècles, fasse place à la jalousie. Et en France, il n'y a pas simplement des Anglais qui se méfie du coq gaulois, il y a aussi une opposition politique à ce pauvre Champollion.
Ben on est sous Charles X, il faut le rappeler, c'est-à-dire on est en pleine monarchie, et puis on dit non seulement qu'il était bonapartiste, mais qu'en plus, lui et son frère étaient des républicains.
Des républicains, et ça va lui mettre des bâtons dans les roues, et notamment retarder son départ en Égypte, parce qu'il faut quand même des subventions, et puis aussi faire passer à une perte pour la France. Car dans ce grand mouvement depuis l'expédition d'Égypte, l'Égypte est à la mode. En Occident, il y a des collections, on rassemble des objets de plus en plus ou moins douteuses, et puis qu'on vend à des grands musées. Et comme c'est Champollion qui sert d'intermédiaire, la France dit non, on ne va pas acheter. Donc c'est comme ça que le Louvre va mettre un temps fou à constituer sa première collection égyptienne. Et il va falloir qu'il attende 1824 pour aller à Turin.
Pas encore en Égypte, mais pour quelle raison Turin ?
Turin, c'est le lieu où, à l'époque, le plus beau musée.
Énormément d'antiquité égyptienne.
Et notamment, ça va lui permettre déjà de commencer à fixer des chronologies, parce que le Champollion, c'est pas simplement quelqu'un qui traduit. Il y a plein de gens qui traduisent des langues perdues. C'est aussi, en même temps, son « je tiens l'affaire », la naissance d'une science. Je crois que c'est simplement aussi la naissance de l'égyptologie.
On y reviendra. Mais alors donc, il finit par partir en Égypte en 1828, un voyage qui va durer 2 ans. Vous dites d'ailleurs qu'entre autres, il va évidemment voir tous ces hiéroglyphes qu'on trouve un peu partout, qu'il n'avait jamais vus. Il va essayer de confirmer, au fond, ce qu'il a découvert. Vous dites qu'il est à l'origine aussi, ou un de ceux qui sont à l'origine de l'arrivée, ou plutôt du départ d'Égypte, de l'obélisque de Louxor qu'on trouve à la place de la Concorde.
Oui, tout à fait. C'est lui qui... Alors, pour l'histoire, c'est pas... là, c'est quelque chose de différent. C'est que Champollion ne s'est pas servi. Là, c'est sous ses conseils, quand même, Étali, donc donné énormément d'objets. Donc, c'est lui, en même temps, qui va choisir de faire déplacer l'un des obélisques, mais les deux avait été offert à la France. Je crois qu'il faut rappeler que le président Chirac a restitué le deuxième en l'an 2000 ou quelque chose comme ça.
Il y a autre chose qui est intéressant aussi. Vous évoquez la datation, parce qu'il est évident que maintenant, connaissant le secret des hiéroglyphes, il peut commencer à trouver des dates, etc. Mais il cache un certain nombre de choses, et notamment la date de certains monuments. Pourquoi ? Parce qu'ils sont antérieurs au déluge. C'est-à-dire que s'il dit qu'ils existaient il y a plus de 2000 ou 3000 ans, c'est-à-dire avant le déluge, ça contredit la Bible.
Oui, parce que Champollion, lorsqu'il lit maintenant, donc avec lui, les murs des temples deviennent bavards. Avant, ils étaient complètement muets. Et chaque pharaon dit qu'en l'an numéro X de son règne, il a fait ci. Donc il est capable d'établir une chronologie et qui met à mal la chronologie biblique. Ça, c'est aussi important, mais en même temps aussi, je voudrais insister sur quelque chose, sur l'importance de ce voyage. C'est même aujourd'hui encore, les égyptologues sont obligés de se référer aux travaux de Champollion. Ce qu'il a vu, il y a 70% des monuments qu'il a vus qui ont disparu.
Et puis surtout, ce qu'il a vu l'inspire. Non seulement il a découvert le secret des hiéroglyphes, mais il va s'en servir pour essayer de comprendre, en les découvrant un peu partout dans son voyage en Égypte, de comprendre la signification, par exemple, des temples mortuaires où ont été enterrés les pharaons.
Messieurs, ces images que vous avez observées reproduites dans chaque tombeau, savez-vous ce qu'elles représentent ? Un voyage. Un voyage dans l'au-delà. C'est un soleil couchant. Il pénètre dans l'hémisphère inférieur et est adoré par le roi, par le pharaon. À côté, c'est un scarabée, le symbole de la Renaissance. Ces tombes royales sont comme des tunnels vers l'au-delà, les portes des rois. Tout compte fait, ce n'est pas une vallée de la mort, mais une vallée de la Renaissance. Personne ne l'a compris pendant 1000 ans, et peut-être plus. Voilà notre œuvre. Voilà ce que vous redonnez au monde. Vous redonnez la vie aux Égyptiens.
C'est ça, hein, Richard Lebeau, l'importance au fond. Il n'a pas simplement découvert une langue, il a découvert grâce à elle toute l'histoire, toute une civilisation.
Oui, c'est en même temps, il ouvre les portes. Il ouvre les portes de travail sur l'histoire, sur la religion, comme vous pouvez le passage l'évoque, la compréhension de la religion funéraire égyptienne. Et puis même encore, une réflexion qui est totalement neuve à l'époque. C'est l'un des premiers à imaginer que les Égyptiens aient pu être monothéistes, d'une manière cachée. Enfin bon, là aussi. Et deuxièmement, il a aussi un travail de chercheur. Il remplit les salles du musée du Louvre. Il travaille, il recopie les textes.
Il va devenir le directeur des Antiquités
égyptiennes. Donc il ouvre tout d'un coup tous les domaines de l'égyptologie. C'est pas simplement quelqu'un qui donne une clé. Voilà, ça y est, maintenant débrouillez-vous, vous avez le matériel. C'est que lui ouvre toutes les portes.
Mais il invente même l'égyptologie. Est-ce que ça existait vraiment avant lui ?
Ah non, on était dans l'égyptomanie. C'est tout à fait différent. On parlait de l'Égypte. Lui, il fait parler l'Égypte. C'est quand même tout à fait différent.
Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est non seulement la ténacité du personnage, vous l'avez rappelé, son don pour les langues, cette curiosité qui l'a poussé, cette ténacité avec laquelle il a réussi à déchiffrer, c'est aussi son âge et sa mort très jeune. Il meurt juste 2 ans après ce voyage en Égypte, 10 ans exactement avant la découverte du nom de Ramsès II. Il meurt en 1832, on ne sait pas très bien de quoi, mais c'est un jeune homme, fatigué, épuisé par son travail.
Il a 40 ans. Et c'est une perte, mais heureusement compensée. C'est une perte parce qu'il est mort donc à 42 ans plutôt. Hein. Alors les circonstances de la mort, on a tous l'impression quand même que lorsqu'il rentre en Égypte, on lui fait subir une quarantaine plus longue qu'à lui, dans des conditions donc difficiles. Il va presque mourir en chair. Hein. Il peut qu'assurer 4 cours au Collège de France. Donc c'est vraiment mourir, déjà la mort... C'est une mort trop tôt, mais heureusement, il avait son frère. Et son frère va publier l'œuvre de Champollion, son histoire, sa grammaire. Et c'est sur ces publications que les petits-enfants de Champollion, je pense notamment à Richard Lepsius, hein, l'égyptologie va pouvoir et ne pas mourir d'un avortement. Parce que je crois que cela, sans le rôle de son frère, c'est... La naissance d'égyptologie retardée. Ça, c'est quelque chose de phénoménal. Et en même temps aussi, c'est toute une histoire d'une jeunesse qui décrypte un secret dont a mis des millénaires à percer la compréhension. Et puis, une éloge de ténacité. Mmh. Il a vraiment tout eu. Hein, lui, on a fait passer... Et c'est un opposant, donc on va ici. La santé, le voyage en Égypte de Poque de Champollion, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Hein. Mmh. Il s'évanouit sur place quand il visite Abou Simbel. Hein. Mmh. C'était pas les hôtels 5 étoiles. Hein.
Mais ça va plus loin même, parce que si on retient également son nom plus que d'autres qui ont découvert d'autres langues anciennes dont on avait oublié la signification, par exemple, l'engouement aujourd'hui pour l'Égypte, je m'en rends bien compte, dans 2000 ans d'histoire, quand on aborde le sujet sur l'Égypte, ça intéresse toujours, ça passionne des gens, peut-être plus que des sujets plus contemporains. L'Égypte, ça a toujours fasciné. C'est à Champollion qu'on le doit aussi, d'une certaine manière.
Champollion à l'expédition d'Égypte. Je crois qu'effectivement, c'est un mariage franco-égyptien. Je crois qu'il est, c'est lui qui le scelle. Hein.
Et Champollion que l'on retrouve donc, Richard Lebeau, dans votre atlas de la découverte de l'Égypte et aussi dans un autre livre que vous avez signé tous les deux chez Autrement, Pyramides, temples et tombeaux de l'Égypte ancienne. À lire également Champollion, un scribe pour l'Égypte de Michel de Wachter, qui a été réédité chez Gallimard Découverte. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire fiction excellent, Égypte, le secret des hiéroglyphes, de Ferdinand Fairfax, disponible en DVD aux éditions France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno et Patrick Henry, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 1962, le drame des pieds noirs.